en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Aujourd'hui, Canal Académie, dans l'émission En habit vert, trace le portrait de Roger Arnaldez, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, décédé récemment le 7 avril 2006, à l'âge de 94 ans. Avec lui disparaît l'un des meilleurs connaisseurs français de l'islam, professeur émérite à l'université de Paris 4 Sorbonne, philosophe de formation, auteur d'une trentaine d'ouvrages portant sur l'islam, la philosophie médiévale et la pensée d'Averroès. L'homme était profondément chrétien, partisan d'une démarche œcuménique et d'ouverture sur les autres religions depuis les années 30. On lui doit des livres où dialogue les monothéismes et dont les analyses révèlent une communauté de pensée traversant les civilisations méditerranéennes du Moyen-Âge. Pour témoigner du parcours, de la foi, de la générosité et de la discrétion de Roger Arnaldez, j'accueille aujourd'hui un de ses confrères, membre de l'Institut, Michel Zinc, philologue et médiéviste, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Michel Zinc, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue au micro de Canal Académie. Pour vous présenter davantage, je précise que vous avez été élu le 3 juin de l'année 2000, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, au fauteuil de Félix Lecoy, que vous êtes diplômé de l'École normale supérieure, agrégé de lettres, docteur ès lettres, que vous avez enseigné à l'Université de Toulouse, le Mirail à la Sorbonne, mais que vous êtes professeur au Collège de France à la chaire de littérature de la France médiévale. Vous êtes aussi membre de nombreuses associations, membre de nombreux conseils scientifiques. Mais aujourd'hui, c'est parce que vous avez bien connu Roger Arnaldez, car vos familles respectives étaient très proches, que vous avez accepté de venir au micro de Canal Académie pour témoigner de l'homme. Comment avez-vous donc rencontré Roger Arnaldez ?
Simplement parce que mes parents étaient très liés aux Arnaldez. Roger et Colette Arnaldez étaient les meilleurs amis de mes parents, et à une époque où Roger Arnaldez et mon père étaient tous deux professeurs à la Faculté des Lettres de Lyon. Et à l'époque, j'étais petit garçon, mais j'aimais beaucoup les Arnaldez, amis de mes parents. J'étais ami des enfants Arnaldez et je le suis toujours. Mais en grandissant, en devenant adolescent, j'éprouvais de plus en plus d'admiration et d'affection pour Roger Arnaldez, et il a joué un rôle très grand dans ma vie intellectuelle, dans ma vie personnelle, dans ma vie spirituelle même, puis-je dire.
Alors, comment vos yeux d'enfant d'ailleurs percevaient ce savant ?
Eh bien, Roger Arnaldez était quelqu'un d'extraordinairement vivant et qui avait l'art d'aborder des questions qui étaient en fait des questions philosophiques, même si je ne m'en rendais pas compte à l'époque, par des biais simples, par boutades, avec un côté lui-même presque enfantin, et puis par mouvements d'humeur, des sortes de colères qui étaient des colères feintes, une sorte d'inadaptation au monde dont il jouait, etc. Et à partir de là, eh bien, il faisait découvrir que ce dont il parlait de façon si amusante était en réalité profond. Et je dois dire que lui, qui était déjà à l'époque un très très grand savant, très connu, consacrait chaque semaine une heure ou deux à me faire faire de la philosophie quand j'étais en classe de philosophie, en hippocagne, en cagne, et que c'est vraiment lui qui m'a fait comprendre, enfin, avec un succès moyen mais qui tient à moi et non pas à lui, ce qu'est la pensée philosophique.
C'est important dans la formation d'un homme d'avoir bénéficié de sa pédagogie, en fait.
Exactement.
Dans un cadre extraordinairement intime privilégié, et familial. Oui. Quand vous avez entamé vos propres études, a-t-il été aussi de conseil
Oui, c'est-à-dire, de loin, il n'a jamais pesé sur moi, et puis j'avais autour de moi mes parents, mes professeurs. Oui. Mais enfin,
Vous
l'ai toujours beaucoup vu, très souvent, très longuement, et j'ai l'impression d'avoir entretenu un dialogue avec lui toute ma vie sur des questions intellectuelles et sur des questions religieuses. Pour encore petit garçon ou adolescent ou tout jeune homme que j'étais, voir quelqu'un comme lui, pour qui j'avais tant d'admiration intellectuelle, et à l'époque, quand on est en cagne comme ça, où l'admiration intellectuelle, ça compte, voir quelqu'un comme lui avoir une foi si vive, une foi si rigoureuse, et en même temps si ouverte sur les autres religions, parce que, vous l'avez dit, tout le monde le répète, c'est vrai, naturellement, que professionnellement et par conviction, il était ouvert sur les autres religions, mais il faut dire aussi qu'il tenait ferme à la sienne et qu'il n'était pas du tout entraîné dans une sorte de ni de démagogie, ni de discours lénifiant sur la proximité avec l'islam quand elle ne lui apparaissait pas. Donc de voir quelqu'un à la fois d'aussi ouvert et d'aussi rigoureux avoir une foi aussi intense, eh bien c'était pour moi extrêmement important. Donc, je donne l'impression que nous ne parlions que de questions intellectuelles et spirituelles. Évidemment que ce n'était pas le cas, puisque c'était... les Arnaldès venaient sans cesse à la maison, nous allions sans cesse chez les Arnaldès. J'y allais seul, mes parents et eux allaient au cinéma et mangeaient des saucisses ensemble. Enfin bon, ce genre d'activité, nous passions des vacances ensemble. Et Roger Arnaldès était très amusant, sa femme aussi. Tous deux
vous
se moquaient gentiment.
Vous avez quelques anecdotes ?
Il me revient, donc il était agrégé de philosophie au départ.
Oui.
Son premier poste, il a été nommé professeur de philosophie au lycée de Mont-de-Marsan. Et Roger Connet Arnaldès était tout jeune marié. Ils ont débarqué à Mont-de-Marsan. Ils ont essayé d'installer le logement qu'ils avaient loué. Et un jour, Colette Arnaldès est revenue du marché. Elle a trouvé son mari sur une échelle. La moitié du plafond était tombée. Il essayait de fixer un lustre. C'était un peu comme dans Trois hommes dans un bateau, l'oncle Podger. Et il répétait, je n'admets pas que la matière me résiste. C'est un philosophe idéaliste. Mais les plafonds tombaient tout de même. C'était plein d'anecdotes sur leur long séjour en Égypte où il était allé à la fin des années 40, enfin peu de temps après la guerre, pour se perfectionner en arabe et en islamologie, où ils sont restés jusqu'à l'arrivée de Nasser, où ils sont partis, je crois, par hasard, juste avant que Nasser arrive, enfin bref, donc ils sont partis vers 54, 55, je ne sais pas, et sur cette vie au Caire, à la fois donc sur les grands intellectuels, les grands esprits qu'on y rencontrait, sur Massignon, mettons, il était intarissable, mais pas seulement sur Massignon, sur les dîners avec les pilotes du canal, et sur cette vie à demi coloniale, sur telle égyptienne fortunée à qui il donnait des cours de français, enfin, bon, je répète pas les anecdotes, mais c'était extraordinairement amusant. Il avait aussi des anecdotes sur la drôle de guerre, sur ses années de captivité. Alors, il racontait qu'il était à la tête d'une sorte d'escouade d'étrangers qui s'étaient engagés à la déclaration de guerre. Et alors qu'ils se disputaient entre eux parce qu'il y avait un prince valaque et un comte polonais qui disaient qu'en Valachie, tout le monde est prince, etc. Et au milieu de tout ça, disait Roger Arnaldès, j'étais caporal-chef. Après quoi, il a été fait prisonnier. Et dans son stalag, il s'occupait, avec quelques amis, à écrire un roman épistolaire à la façon des romans du XVIIIe siècle qui s'appelait « Les épanchements de Synovie ». Mais ils avaient évidemment beaucoup de mal à trouver du papier pour écrire leur roman. Et comme le papier manquait d'une façon générale, ils sont aperçus au bout de quelques temps qu'un de leurs camarades prenait le roman, le lisait et l'utilisait ensuite pour un autre usage. De sorte que les épanchements de Synovie ont ainsi disparu.
Vous est-il arrivé de voyager en Orient en sa compagnie ?
Non, je n'ai jamais été en Orient avec lui. J'ai voyagé avec lui en Suisse et en Autriche. En Suisse, tout au début des années 60, les Arnaldès avaient une frégate, c'était une grosse Renault qui chauffait dans les cols. Et Roger Arnaldès disait « Qu'est-ce que c'est que ce pays ? On dirait un jardin japonais, mais c'est trop grand qu'on me donne un vrai jardin japonais !» Et pendant ce temps, la pauvre Colette conduisait la voiture, ce qu'il refusait de faire, et la faisait réparer.
Voilà. Est-ce que son extraordinaire don des langues vous fascinait ? Là aussi, par humour, il faisait part de certaines lectures ou...
Non, c'est-à-dire, c'était le contraire d'un pédant. Donc, il ne faisait pas étalage de son don des langues. Mais je m'apercevais bien, naturellement, il savait l'arabe professionnellement. Oui. Naturellement, il avait une formation classique. Et non seulement il savait les langues classiques, mais il a traduit avec Jean Pouillou, qui était membre de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, et le père Claude Mondésert, directeur de la collection Source Chrétienne, il traduisait Philon d'Alexandrie pour Source Chrétienne. Et à l'époque, enfin bon, j'aimais beaucoup Jean Pouillou aussi, beaucoup le père Mondésert que j'ai connu à travers les Arnaldès, et qui a d'ailleurs nous a mariés, ma femme et moi, tout ça se passait en famille, si je puis dire. Donc j'assistais à ses travaux sur Philon, mais en même temps, avec qu'un autre philosophe de Lyon, Roger Naldès, avait entrepris de traduire Heidegger. Je ne crois pas que la traduction ait paru parce que notre apparu, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais comme mon père était germaniste, il se réunissait chez nous, une fois par semaine, pour traduire Heidegger. Donc, j'avais ce témoignage sur sa capacité, non seulement à faire de l'arabe, mais à traduire Philon d'Alexandrie et à traduire Heidegger. Et il apprenait toutes sortes de langues.
Il en connaissait une dizaine, je ne sais pas ce qu'il en connaissait. Il en connaissait beaucoup.
Il en avait étudié beaucoup. Il en parlait. Il me disait, en ce moment, je fais du turc. Oh, c'est une langue agglutinante. J'ai horreur des langues agglutinantes. Maintenant, on ne dit plus, paraît-il, langue agglutinante. Mais à l'époque, la linguistique était moins avancée.
Outre ce don des langues, quel est le texte de Roger Naldès que vous avez préféré ?
Écoutez, alors, je risque d'être injuste parce que, comme encore une fois, je ne suis ni arabisant ni philosophe, je les juge peut-être mal. Et deux livres de lui m'ont particulièrement marqué. D'abord, sa thèse que j'ai lue assez tard sur grammaire et théologie chez Ibn Hazm de Cordoue. Parce que ce problème du lien de la grammaire et de la théologie... Alors évidemment, je ne pouvais pas tout tirer grand-chose cette thèse, faute de compétences. Mais enfin, ce que j'en tirais était très important parce que ce lien grammaire et théologie est essentiel. Évidemment, particulièrement dans le monde arabe et islamique à cause de la nature particulière du Coran, mais même dans la théologie et la philosophie occidentale. Et d'ailleurs, un de ses élèves indirects, est un très très grand savant, Jean Jolivet, a fait sa thèse sur grammaire et théologie chez Abélard. Enfin, je ne sais plus c'est exactement le titre, mais c'est le même sujet. Alors cela, et puis...
L'équivalent de l'autre côté de la Méditerranée.
Voilà. Ibn Hazm de Cordoue. Oui. Donc c'est ce côté, mais sont les Arabes.
Voilà,
enfin,
je me suis trompée. Mais
son petit livre sur Mahomet, qui a paru il y a très longtemps déjà, chez Segers, et qui est une introduction absolument lumineuse, respectueuse et ferme, si je puis dire, à Mahomet. Et vraiment, j'ai vécu avec ce que m'a appris ce petit livre. Peut-être que ça ne suffit pas, mais enfin, tout le monde n'a pas lu ce Mahomet et ça aide énormément. Et puis, il y a les ouvrages de la dernière période, mais qui sont plus des poseurs de questions. Trois messagers pour un seul Dieu, où donc il pose la question de la relation entre le judaïsme, le christianisme et l'islam, mais d'une façon moins écuménique, serait trop dire, mais enfin moins consensuelle que le titre le dit. Et puis ensuite, un livre dont je ne sais même pas s'il a été publié. Il me l'avait fait lire en manuscrit sûr, une sorte de démonstration du sens du christianisme qui, à la fois, était quelque chose d'un peu étrange parce que c'était trop prêté à la raison et à la philosophie, d'une certaine façon, mais qui, en même temps, était une démonstration véritablement saisissante. Et voyez, je suis en dessous de tout parce que vraiment ça m'a marqué, mais j'ai oublié le titre et je ne sais même pas, ce qui montre que j'étais négligent, si ensuite il l'a publié ou non. Après, il passait à autre chose, on s'est revu, voilà.
C'est peut-être les religions face à l'œcuménisme, non ?
Non, ce n'était pas cela. Et à mon avis, il ne l'a pas publié, ça.
Roger Naldès était-il musicien ?
Oui.
Parce que j'ai lu qu'il jouait du piano.
Il jouait du piano,
peut-être avez-vous assisté à...
Je l'ai déjà entendu jouer du piano, mais là encore, rarement et presque subrepticement, il y a très longtemps, quand ils étaient à Lyon, parce que là encore, ce n'est pas quelque chose dont il faisait étalage. Donc je l'ai peu entendu jouer, mais avec sa capacité d'analyse et son intelligence et sa sensibilité, il parlait admirablement de la musique et des musiciens.
Quels étaient ses musiciens préférés ?
Écoutez, je ne saurais plus vous dire, parce que mes souvenirs de conversations sur la musique étaient des conversations générales, enfin un petit peu abstraites, sur la nature et les pouvoirs de la musique, plus qu'une relation sur tel musicien particulier. Et j'aurais peur de trahir sa mémoire en vous parlant précisément de ses goûts, parce que je me rappelle être arrivé chez eux, il jouait, mais il n'a jamais joué systématiquement, enfin devant moi ou en ma présence, donc je ne peux même pas dire, j'ai entendu Roger jouer ceci ou cela.
Qu'est-ce qui est le plus marquant dans sa personnalité ?
Ce qui est le plus marquant, pour le dire de façon trop générale, c'est naturellement l'intelligence et une forme de candeur, une sorte d'esprit d'enfance, et qui déterminait le reste, qui déterminait le fait qu'il était extrêmement bienveillant, qui ne disait pas de mal des autres, ou s'il en disait un petit peu, c'était après avoir observé un petit trait amusant, quelque chose comme ça, et une sorte de, une originalité d'esprit bien sûr, mais un art de prendre les choses par un biais inattendu, qui était naturellement le fait d'un esprit philosophique, rompu à la philosophie et qui voit l'inattendu dans le monde et dans les idées, mais aussi un trait de caractère de quelqu'un qui a le sens de ce qui est comique et qui a une sorte de goût et de sympathie pour les choses autour de lui, en même temps qu'il était un homme si distrait et si peu pratique, qui faisait qu'il voyait tout de suite quelque chose à la fois d'amusant et de significatif chez les gens et dans les choses.
Où aimait-il le plus méditer ?
C'était un homme des villes, plutôt. Donc, en Suisse, il regrettait les jardins japonais. Et il venait nous voir, les gens venaient nous voir à mes parents avaient une petite maison de campagne dans le Morvan. Mais je me rappelle Roger, bon, sans cravate à la rigueur, mais en souliers noirs et en costume, prenant le café dans le jardin, s'il allait chercher des champignons, vraiment à la lisière du bois. Non, il méditait dans son bureau.
D'accord. Monsieur Michel Zinc, je vous remercie d'être venu témoigner au micro de Canal Académie sur Roger Arnaldès, qui était un proche de votre famille et qui vous a accompagné tout au long
toute
de votre vie. Et dont vous avez évoqué la générosité, la foi, qui était très importante pour lui et pour tous ceux qui l'ont approché.
Merci à vous.
Pour situer le parcours universitaire, pour raconter le chercheur et le savant que fut Roger Arnaldès, j'accueille aujourd'hui un autre de ses confrères, membre de l'Institut, Daniel Gimaret, orientaliste, spécialiste d'islamologie, de littérature et de théologie musulmane. Daniel Gimaret, bonjour et bienvenue au micro de Canal Académie.
Bonjour.
Pour vous présenter davantage, je précise simplement que vous êtes né en 1933, mais surtout vous avez été élu le 30 juin 1995, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres au fauteuil de Jean Humbert. Vous avez été, de 1973 à 1998, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, fondée par Victor Duruy, une vieille institution, en 1868, qui est un grand établissement d'enseignement supérieur français, connu pour sa cinquième section, celle des sciences religieuses, Et vous avez été membre de différents conseils scientifiques, d'instituts français, comme l'Institut français de recherche en Iran dans les années 80, de l'Institut français d'études arabes de Damas jusqu'en 1997. Et vous êtes membre des conseils scientifiques et d'administration de l'Institut français oriental au Caire depuis 1999.
Enfin, je ne le suis plus maintenant, j'ai été remplacé par mon ami Christian Robin.
Voilà. Alors, vous êtes également membre de la Société asiatique qui joue un grand rôle dans la communauté des orientalistes français, société savante à laquelle Canal Academy a consacré une émission que nos internautes peuvent écouter dans notre rubrique Point de mire.
Et puis j'ajoute que j'ai été présidente de cette société.
Voilà. Toutes ces précisions pour expliquer que vous avez un parcours proche de celui de Roger Arnaldès, que vous avez croisé lors de vos différentes occupations professionnelles, que vous avez en commun la connaissance de la langue arabe et de bien d'autres, et que vous avez tous les deux pour objet d'étude principale l'islam. Roger Arnaldès était philosophe de formation, vous êtes un spécialiste de littérature religieuse et d'histoire religieuse des textes arabes. Puis-je vous demander, pour commencer, qu'est-ce qui est à l'origine de votre vocation d'orientaliste ?
Ah, c'est une autre question, ça, qui est en sans rapport avec Arnaldès, mais voyez-vous, j'ai eu un parcours tout à fait classique, enfin des études classiques, agrégation des lettres classiques, école normale supérieure avec français, latin, grec. Mais dès mon séjour à l'école normale, et même avant, je ne me voyais pas poursuivre une carrière dans ces vieilles ornières, enfin, donc je me suis assez vite fatigué. Et alors, dès mon séjour à l'école normale, comme par ailleurs la guerre d'Algérie tenait une grande importance dans la vie politique, j'ai été amené à suivre des cours d'arabe au Lanzo. En plus, nous étions très libres à l'école normale durant certaines années. Donc, c'est ce qui est peut-être au point de départ de cette carrière. Mais c'est surtout au retour du service militaire que, justement, ayant à décider de mon avenir et très tenté par une carrière autre que celle à laquelle me destinaient mes études antérieures, j'ai cherché vainement et longtemps sans résultat de possibilités d'activités qui me permettraient de mener une vie intéressante. Et alors, au retour du service militaire, j'ai obtenu, par hasard, une affectation au lycée franco-libanais de Beyrouth. Et je voyais là une sorte d'occasion, de tremplin possible pour tâter le terrain, être présent dans le domaine moyen-oriental. Mais ça n'a pas été simple. D'une part, j'avais des activités très chargées comme professeur de français au lycée franco-libanais. Moi, je devais préparer au baccalauréat français, il y a beaucoup de travail. Et d'autre part, j'ai noué différents contacts, mais ces contacts sont restés longtemps sans résultat. Je suis allé voir quelques personnages réputés dans le domaine des études arabes qui m'ont reçu avec hauteur ou indifférence. Mais il se trouve que, d'une part, j'avais lié connaissance avec les jésuites de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, qui sont très actifs et qui ont un département d'arabe extrêmement de très bonne qualité. Et il se trouve qu'à l'époque, Arnaldès était professeur à Lyon.
Alors, j'allais vous demander, oui, quand avez-vous rencontré Roger Arnaldès et comment dans les années 60
donc. C'est cela. Je pense que c'est en 64. Donc, à l'époque, Saint-Joseph dépendait administrativement de l'Université de Lyon pour les collations des grades, organisation des examens, commission des jurys.
Bon. Exactement. Donc, Roger Arnaldès était à l'époque professeur à la faculté de Lyon et en même temps en relation avec l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, dont j'aimerais d'ailleurs que vous puissiez dire quelques mots, parce que c'est un lieu particulier, pour expliquer à nos internautes. Alors, cette rencontre avec Arnaldès dans ces conditions.
Eh bien, naturellement, donc, je fréquentais beaucoup le père Allard, Michel Allard, qui a été malheureusement tué au début de la guerre civile libanaise en 1976. Il m'est même arrivé de travailler avec Allard sur des thèses d'arabe. Et c'est à l'occasion de la venue d'Arnaldès à Beyrouth pour une session d'examen, je pense, c'est en juin 1964. Que nous avons assisté, enfin, en commun à une réception à je ne sais où, à l'ambassade, etc. Et Allard m'a présenté à M. Arnaldès. Alors, à la différence des personnages que j'évoquais précédemment, Arnaldès tout de suite s'est intéressé à moi de façon extrêmement chaleureuse. Vous savez, c'était un homme extrêmement simple et très bon et surtout d'une grande ouverture d'esprit. Donc, aussitôt, je lui ai expliqué ma situation, bien sûr, et aussitôt, nous avons pris rendez-vous le lendemain. Il est venu en compagnie d'Allard chez moi, à mon domicile à Beyrouth, et nous avons convenu d'un programme de travail, mais il voulait quand même me mettre à l'épreuve, donc il m'a donné un texte à traduire et commenter, et 3 mois plus tard, ou 4 mois plus tard, je lui ai envoyé le résultat à Lyon.
Oui.
Alors, le résultat s'avérant positif.
Quel était ce premier texte à Tahran?
Je ne sais pas si c'était dans le public. C'était un texte d'un philosophe dans la lignée d'Avicenne.
Voilà,
vous savez.
Juste pour préciser.
Alors, un texte extrêmement technique. Mais enfin, je m'en suis bien tiré. Et Arnaldès me donne en quelque sorte le feu vert. J'ai sauté le pas, parce que je n'ai pas démissionné. Mais au terme de ma troisième année d'enseignement à Beyrouth, j'ai décidé de revenir en France en prenant une année de congé sans traitement et dire adieu VAT, on verra ce que ça va donner. Donc, au retour en France, j'ai regagné Paris où j'avais mes habitudes auparavant, alors que Arnaldès trouvait à Lyon. Mais enfin, j'ai fait quelques voyages, mettons une fois par mois jusqu'à Lyon, reçu au domicile de M. Arnaldès qui me soumettait à... Enfin, il ne s'agit pas de me soumettre, mais enfin, nous travaillons en commun. Bon, c'est ça, voilà. Et au terme de cette année de tous les dangers, eh bien, je me suis présenté au CNRS. Et grâce à l'appui non seulement d'Arnaldès, mais d'autres personnes, j'ai été reçu, je crois, 8e sur 8. Enfin, c'est-à-dire que je me suis raccroché à cette bouée. Et c'est là que a commencé ma carrière.
D'accord. Donc, Roger Arnaldès n'est pas pour rien dans votre parcours.
Non, c'est une action absolument décisive.
Tout à fait.
Si Arnaldès n'avait pas été là, je ne serais pas là. C'est certain.
Alors, quand il était professeur à la faculté de Lyon, d'ailleurs, il avait été nommé à la faculté de Lyon à la suite du départ d'Henri Lahousse pour le Collège de France. Quelle était la filiation des maîtres, si on peut dire comme ça, des maîtres à disciples au sein des spécialistes de l'arabe et de l'islam?
Vous savez, il n'y a pas de relation
de maître à disciple
entre Lahousse et Arnaldès. Vous savez, ce sont deux personnalités extrêmement... éloigné. Enfin. Mais Arnaldès est un disciple de Massignon.
Exactement, il l'avait
Arnaldès
rencontré.
Arnaldès a commencé sa carrière, lui, un peu comme moi,
tout à fait.
Comme professeur au lycée français du Caire. Et alors, c'est là-bas qu'il a entretenu des relations avec Massignon. Il y avait des amitiés Massignon, il y avait des entretiens. Et comme vous l'avez rappelé, Arnaldès était extrêmement croyant. Et donc, il participait à ce dialogue islamo-chrétien auquel tenait beaucoup Massignon.
Oui.
Et donc, auquel
et
il a beaucoup participé aussi. Lui-même, naturellement.
Oui,
il y a une filiation certaine.
Oui. Parce qu'il disait que Louis Massignon avait été pour lui un guide précieux. Et il l'a rencontré effectivement tout jeune aussi.
Mais je précise quand même qu'avec plus de bon sens et de mesure, de raison gardée que Massignon lui-même. Arnaldès ne s'est jamais embarqué dans ces vues plus ou moins prophétiques que Massignon se donnait. Arnaldès a toujours gardé les pieds sur terre à ce point de vue-là.
D'accord. Nous allons marquer une courte pause dans notre émission et nous reprendrons le fil de cette émission avec Daniel Chimaret dans quelques instants.
Thank you.
Nous retrouvons aujourd'hui Daniel Gimaret pour évoquer avec nous la figure de Roger Arnaldez. Daniel Gimaret, à quel autre moment de votre carrière Roger Arnaldez, a joué un rôle ?
Eh bien, c'est-à-dire que c'est au bout d'un certain nombre d'années. Arnaldez, pendant un certain nombre d'années, a été professeur à Lyon, où il a dû affronter les fameux événements de mai 68, qui l'avaient beaucoup marqué, qui l'ont beaucoup blessé. Enfin, il a beaucoup souffert de cela. Et c'est à la suite de cette période, évidemment, ça n'a certainement pas de rapport, il avait bien droit à une affectation à Paris. Enfin, il s'est trouvé qu'il est venu à Paris. Mais pendant de nombreuses années, j'avais des rapports extrêmement lointains. D'autre part, notre approche de l'islam n'était pas la même. C'est-à-dire que moi, dès le départ, j'étais très intéressé par une recherche de caractère très pointu, très érudit, l'étude des manuscrits, les mises au point, le souci de faire avancer les connaissances sur tel point précis, etc. C'était une façon de voir que Arnaldez n'avait pas, et de reste, il l'a dit très franchement, très simplement, comme tout ce qu'il dit. S'il se faisait, lors de ma remise d'épée, dans un petit discours qu'il a bien voulu prononcer à cette occasion, eh bien, il a reconnu tout à fait franchement qu'il ne voyait pas les choses de la même façon. Lui, en ce qui le concerne, la recherche érudite ne l'intéressait pas. Arnaldez était essentiellement, d'une part, un philosophe qui voyait les problèmes en philosophe, donc comme des occasions de réfléchir, de méditer, de voir les prolongements de tel ou tel thème. Cette grande ouverture d'esprit était la sienne. Sa fréquentation non seulement des textes d'arabe, mais des textes grecs, des textes juifs, tout cela. Donc, il a participé à l'édition des textes grecs de Philon, etc. Donc, c'était la recherche érudite ne l'intéressait pas. Et d'autre part, c'était profondément un chrétien. Et il était très engagé dans ce dialogue islamo-chrétien auquel il avait été initié par Louis Massignon au Caire. Et alors, ce sont deux façons de voir les choses qui n'étaient pas du tout les mêmes. Qui n'étaient pas du tout les miennes, pardon. C'est pour cela que nous nous voyons de temps à autre. Il me suivait naturellement, il a suivi mes travaux. Mais en parlant, la thèse que j'ai préparée sous sa direction, il n'est jamais intervenu. Enfin, je lui ai apporté la thèse toute faite et il a bien voulu l'accepter telle qu'elle.
Alors, dans votre carrière, par exemple, vous avez été directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Comment ça s'est passé ?
Et bien justement, là, ça a été un épisode assez dramatique. Mais les avis de mes futurs collègues étaient extrêmement partagés. Et il s'est trouvé qu'au bout de 4 votes, il était impossible de choisir entre l'un et l'autre des deux candidats. Si bien que l'élection a été suspendue et remise à quinzaine. Alors, il se trouvait que j'étais candidat à la succession d'Henri Corbin, qui est une grande sommité des études islamiques, oui. Non pas du côté arabisant, enfin, il était aussi arabisant, bien sûr, mais surtout du côté iranien. C'est-à-dire que Corbin était non seulement un spécialiste, mais un admirateur du chiisme iranien. Alors, la sottise que j'avais commise, c'était de ne pas être allé le voir avant l'élection. Et je crois qu'il en a été blessé. Moi, j'avais cru bien faire de ne pas faire ma cour, etc. Et si bien que Corbin me voyait arriver avec méfiance et il était extrêmement susceptible et sensible. Donc, peut-être supposait qu'il allait faire entrer dans la maison quelqu'un qui aurait été pas nécessairement hostile, mais très étranger à ses propres choix, si bien qu'il était très hésitant à mon égard et plutôt tenté par mon concurrent. Alors, je comptais beaucoup, moi, sur l'appui, non pas d'Arnaldez, c'est comme ça, mais de Georges Vaïda, avec qui j'avais beaucoup travaillé. Ça, si j'ai eu un maître, c'est Vaïda, Georges Vaïda. Mm-hmm. Qui était à la fois un hébraïsant et un islamisant. Et je comptais beaucoup sur l'appui de Vaïda. Et en fait, Vaïda, pour des raisons du reste que j'ai comprises par la suite, n'a pas voulu se prononcer, a dit les deux candidats sont d'égale valeur, etc. Alors j'étais fort déçu. Et c'est pour ça que j'ai alerté Arnaldès. Tu es très gentil, moi, une fois de plus, alors que franchement, il ne me devait rien. Et aussitôt allé voir Corbin en lui disant, mais écoutez, j'y marie quelqu'un de très bien. Et c'est grâce, là encore, c'est grâce à Arnaldès que j'ai eu cette nomination à l'école pratique des études. Donc je tenais beaucoup à
témoigner de sa générosité. Et elle rappelait.
Oui, c'est-à-dire que si c'est cela, c'est-à-dire de, bien que. Ce n'est pas un homme qui aimait qu'on lui fasse la cour, c'est ça, voilà, qu'on lui fasse la cour. Il n'avait pas de reproche à me faire dans la mesure où je le fréquentais peu, je le voyais peu, alors que quelqu'un comme Georges Vaïda, je le voyais très régulièrement à la Bibliothèque nationale, je l'ai reconnu formellement comme mon maître. Mais Arnaldès ne m'en a jamais tenu rigueur. Vous voyez, il était au-dessus de cela, tout à fait au-dessus de cela.
Alors, parmi les ouvrages de Roger Arnaldès, quel est celui que vous aimeriez faire connaître aux auditeurs de Canal Académie ?
Oh, ben je pense que, moi, un livre que je recommanderais volontiers, justement, dans le cadre de ce dialogue islamo-chrétien qui lui était si cher, c'est un petit livre extrêmement honnête, très juste, qu'il a intitulé « Jésus, fils de Marie, prophète de l'islam ». C'est un très petit livre, mais qui très honnêtement présente le point de vue musulman sur Jésus. C'est-à-dire que Jésus est le fils de Marie, naturellement, et est un prophète de l'islam, comme les autres, pas plus que les autres, pas moins. Et Arnaldès a recueilli ici toutes les traditions qui sont très connues, qui sont rapportées par les savants de l'islam.
Alors, il y a aussi un autre lieu de mémoire que vous avez en commun, qui est l'Institut de France, puisqu'il a été élu en 1986 à l'Académie des sciences morales et politiques, et vous avez été élu en 1995 à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Vous vous êtes croisés aussi ici, vous avez évoqué son discours au moment de votre remise d'épée.
Bien sûr, je tenais beaucoup lorsque nous avons organisé une petite fête, naturellement, comme tout académicien qui se répète, nous avons fait une petite fête pour fêter cela. Et donc, je tenais beaucoup à ce que Arnaldès soit là, prenne la parole, et c'est ce qu'il a fait dans des termes extrêmement chaleureux.
Daniel Gimaret, il me reste à vous remercier pour cet entretien où vous avez évoqué pour nous la figure de l'académicien Roger Arnaldès. Vous étiez confrères, vous aviez en commun la cause des études orientales, la passion des langues orientales et l'islamologie. Daniel Gimaret, notre entretien touche à sa fin. Signalons à nos auditeurs, parmi toutes vos publications et participations très nombreuses revues, l'une d'entre elles peut-être quand même, Les noms divins en islam aux éditions Cerf et Dieu à l'image de l'homme, les anthropomorphismes de la Sunna et leur interprétation par les théologiens. Daniel Gimaret, merci. Je vous propose d'écouter tout de suite un texte de Roger Arnaldès, très éloigné de ses travaux d'islamologie, un texte littéraire, qu'il a écrit en 1997 alors qu'il était président de l'Académie des sciences morales et politiques. Il s'est alors exprimé en séance publique sur le beau sujet « La vie est-elle un jeu et l'homme un comédien ?» Écoutons Patrick Hamel pour la lecture de ce texte.
Jean-Paul Sartre a vulgarisé l'idée que la vie est un jeu. On connaît le célèbre passage de « L'être et le néant » où il décrit les mouvements d'un garçon de café. Toute sa conduite nous semble un jeu. Il joue, il s'amuse. Mais à quoi donc joue-t-il? Il ne faut pas l'observer longtemps pour s'en rendre compte. Il joue à être garçon de café. Être, c'est donc jouer un rôle. Mais cette idée est antérieure à Sartre. On la trouve sous une forme amusante dans une des histoires comme ça de Kipling. Le crabe qui jouait avec la mer. Toute chose ayant été mise en place, le vénérable magicien dit aux animaux qu'ils pouvaient venir et jouer. Et les animaux dirent « Ô vénérable magicien, à quoi allons-nous jouer ?» Il leur répondit « Je vais vous le montrer. » Il prit les éléphants, tout ce qu'il y avait là d'éléphants, et il leur dit « Jouez à être un éléphant. » Et tout ce qu'il y avait là d'éléphants joua. Quant à l'homme, il fut reconnu trop sage pour jouer ce jeu, dont Kipling dit qu'il était le jeu du véritable commencement, entendons d'un temps où être était identique à jouer son rôle d'être. Mais l'homme est doué de sagesse, ce qui fait qu'il ne s'identifie pas naïvement au rôle qui correspondrait à sa nature. Qu'est-ce d'ailleurs que la nature humaine? Qui est l'homme? Question bien différente de celle de savoir ce qu'il est et à laquelle il est facile de répondre. Il est tel qu'il se donne. Il est le rôle qu'il joue dans le monde, dans la société. Mais, contrairement aux éléphants, l'humanité dispose d'un très vaste répertoire et chacun y prend librement ou selon les circonstances le personnage dont le masque lui convient. De ce point de vue, les hommes diffèrent profondément les uns des autres. Certains adoptent un seul et unique rôle auquel ils ramènent tous leur comportement. Ils sont toujours reconnaissables. Tous leurs actes sont marqués du même sceau. C'est ainsi que Balzac nous représente Blanchon, un grand médecin qui ne pouvait être rien d'autre qu'un grand médecin. Mais à l'inverse, nous avons les dilettantes. Maurice Blondel, dans L'Action, les a parfaitement décrits. Tel se plaît à mêler les extrêmes et à composer dans un seul état de conscience l'érotisme avec l'ascétisme mystique. Tel, à l'aide de cloisons étanches, développe parallèlement un double rôle d'alcoolique et d'idéaliste. On pense à ce qu'écrivait Horace à Mécène. Tantôt je me fais homme d'action et je me plonge dans le flot des affaires de la cité, gardien et champion inflexible de la vertu authentique. Tantôt j'en reviens à me glisser furtivement dans les préceptes d'Aristippe et je m'efforce de mettre les choses à mon service et non de les servir moi-même. Pour le dilettante, il n'y a pas un rôle mais une variété indéfinie de rôles et de personnages qui se plaît à jouer. C'est un esthète qui réussit à jouer avec la nature comme elle joue avec nous. Beati qui ludunt. Un jeu. Voilà la sagesse de la vie, écrit Blondel, qui ajoute « Gardez avec l'agilité d'un clou l'inertie d'un cadavre, perinde ac cadaver. Se pénétrer des exercices de Saint-Ignace tout en se jetant dans le domaine des intrigues politiques, n'est-ce point la perfection et comme la sainteté de la perversion ?» Le snobisme est une autre façon de jouer. On pourrait le confondre avec le dilettantisme, n'était qu'il impose des obligations absentes des rôles du dilettante. Frédéric Roux, dans L'expérience morale, écrit « Le snob considère comme un devoir la promenade qu'il fait chaque jour à la même heure dans la même allée du bois. » Telles sont les obligations des hommes du monde dont les romans de Balzac à Proust sont remplis. L'aspect social de ce jeu en est constitutif. Il y a là une question de décence. Et c'est une provocation, donc encore un jeu, que de chercher à la heurter. Le rôle de provocateur existe, mais la plupart des hommes cherchent plutôt à vivre comme il faut. Cette expression semble avoir frappé les romanciers russes. Turgenev écrit dans Les eaux tranquilles « On ne salue pas ses voisins de campagne en ville, ce n'est pas comme il faut ». En français dans le texte. Et toujours en français, il parle du « bon ton ». Dans la nouvelle des deux amis, dans le Amiet du district de Tchigri, Son héros dit à un inconnu avec qui il a lié conversation « Nous sommes, vous et moi, des gens comme il faut, c'est-à-dire des égoïstes. Les hommes comme il faut peuvent en effet se fréquenter sans se connaître et sans s'intéresser les uns aux autres. Ils n'ont à s'inquiéter que du rôle convenu qu'ils jouent chacun pour soi, mais qui suffit à fournir les répliques nécessaires à l'apparence d'un dialogue. Ils sont comme les monades de Leibniz, sans porte ni fenêtre, et pourtant en harmonie avec les autres, grâce au principe du « comme il faut ». Encore faut-il parvenir à l'observer. Tolstoï a rédigé un chapitre de ses souvenirs de jeunesse sous le titre français de « comme il faut », une notion des plus fausses et des plus néfastes, dit-il. Que m'est inoculé au cours de ma vie l'éducation et la société. Il y avait les hommes comme il faut et les hommes non comme il faut, des hommes de mauvais genre. Or, Tolstoï avoue qu'il lui fallait faire effort pour acquérir ce « comme il faut ». Je suis terrifié quand je songe à tout le temps précieux que j'ai perdu à 16 ans, à la plus belle époque de ma vie, pour acquérir cette qualité. Tout cela semblait venir aisément à ceux que j'imitais et à la plupart de mes amis. L'imitation. Voilà le maître mot, et pour une grande part au moins, la clé de toute la comédie humaine. Tarde a expliqué les faits sociaux par l'imitation. Il écrit « Nos grands modistes, nos journalistes, sont en train de prendre leur importance bouffonne. Par eux, nos vêtements, nos conversations, nos connaissances, nos goûts et nos besoins de tout genre sont taillés dans un moule uniforme dont il est inconvenant de s'affranchir. L'imitation, peut-être consciente ou inconsciente, réfléchie ou spontanée, volontaire ou involontaire. En effet, notre rôle passager ou durable peut nous être dicté par notre milieu, par les circonstances de notre vie, et nous le jouons alors spontanément, parfois même sans nous en apercevoir, tant il est facile et, pour ainsi dire, naturel. Mais il arrive qu'on désire imiter, tantôt en s'efforçant péniblement d'être comme tout le monde, tel ce héros de Tourguéniev qu'il appelle « l'homme de trop », parce qu'il ne parvient pas à prendre place dans la comédie sociale. Tantôt en choisissant un modèle qui devient un idéal de vie, ainsi qu'était Napoléon pour le Julien Sorel de Stendhal, voire un modèle imaginaire comme le René de Chateaubriand, personnage à propos duquel son créateur écrit dans les mémoires d'outre-tombe, « Une famille de René poète et de René prosateur a pullulé. On n'a plus entendu que des phrases lamentables et décousues. Il n'a plus été question que de vent et d'orage, que de mots inconnus livrés aux nuages et à la nuit. Il n'y a pas de grimaud sortant du collège qui n'ait rêvé être le plus malheureux des hommes, qui à 16 ans n'ait épuisé la vie, qui n'ait frappé son front pâle et échevelé, et n'ait étonné les hommes stupéfaits d'un malheur dont ils ne savaient pas le nom, ni eux non plus. Plus comique est le rôle joué dans Le Rouge et le Noir par l'évêque d'Agde, qui, arrêté devant une glace, donnait gravement des bénédictions du côté du miroir, en répétition des gestes qu'il devait faire pour bénir les fidèles. On ne soulignera jamais assez le rôle du miroir sur la scène de la vie. Mais ces rôles d'imitation se terminent parfois tragiquement, comme pour cette femme qui, dans Les Frères Karamazov de Dostoïevski, par une nuit d'orage, se précipita du haut d'une falaise et périt victime de son imagination, uniquement pour ressembler à l'Ophélie de Shakespeare. Une autre forme d'imitation est celle du héros de Pirandello qui s'applique à être tel qu'on le veut. Ainsi, Tolstoï, dans sa nouvelle « Le père Serge », évoque le temps où les hommes avaient le culte de la femme et où les jeunes filles, conscientes de l'adoration dont elles étaient l'objet, s'efforçaient d'être plus ou moins des déesses. Rappelons encore le mensonge vital illustré par le héros du Canard sauvage d'Ibsen qui arrive à supporter une grande douleur en prenant le rôle de l'homme frappé par le malheur. Mais le rôle qu'on joue est par rapport à l'être authentique que l'on est, comme l'apparence par rapport à la réalité. Or, tandis que le rôle est lié à un spectacle déployé aux yeux de tous et de l'acteur lui-même, l'être que l'on est reste caché derrière le masque théâtral. Comment le connaître ? Est-il même connaissable? Plus encore, existe-t-il? Le conseil de la pitié, le « connais-toi toi-même », qui est à l'origine de notre philosophie, est en fait resté sans résultat malgré les efforts de tous les philosophes. Il ne découvre pas les personnes que nous sommes, mais seulement les personnages que nous jouons. Ni la psychologie la plus audacieuse, ni la métaphysique la plus aventureuse ne vont au-delà. Mais que penser alors des philosophes qui cherchent la vérité ? Tout simplement qu'ils jouent un rôle comme tout un chacun. On reprochait à Descartes d'avoir admis l'existence de la liberté qui lui permet de décider de douter avant d'avoir découvert le premier fait connu, à savoir l'existence de la pensée. Son disciple, Gelling, le défendit en accusant ses adversaires d'ignorer le théâtre philosophique, Theatrum Philosophicum, qui consiste à mettre en scène ses pensées tout en restant soi-même à l'extérieur. Gassendi, de son côté, mais avec une intention hostile, suspectait la sincérité et la réalité du doute cartésien, et parlait curieusement lui aussi de théâtre. D'ailleurs, le dialogue philosophique illustré par Platon n'est-il pas du théâtre ? Quand Hippias définit le beau comme étant une belle femme et que Socrate imagine qu'on lui demande « Et une belle jument, n'est-elle pas aussi quelque chose de beau ? » N'est-ce pas là une réplique de comédien ? Et quand un philosophe discute avec un contradicteur fictif, n'est-ce pas un jeu pour lui de le réduire au silence ? Le philosophe américain Josiah Royce a vu un jeu de la curiosité dans toutes les activités philosophiques ou scientifiques. Toute expérimentation est un jeu et il évoque les cerfs-volants de Franklin. Il généralise ainsi la notion de jeu en l'étendant du jeu scénique à toutes les espèces de comportements ludiques, comme les jeux de cartes ou les échecs. Les fonctions sociales ne sont-elles pas d'ailleurs toutes des rôles joués avec plus ou moins de sérieux et avec des talents divers ? D'ailleurs, les jeux des enfants ne sont que la répétition des rôles que jouent les adultes. Pour Dostoïevski, ces jeux sont un art naissant qui se développe dans les jeunes âmes. On va au théâtre, dit-il, pour voir les acteurs, tandis que la jeunesse elle-même joue le rôle d'acteur. Il y a là, sans doute, un souvenir de ce que dit Schiller sur la réduction de l'art à un simple jeu dans sa 15e lettre sur l'éducation. Mais que signifie un simple jeu, alors que nous savons que dans toutes les situations de l'homme, c'est le jeu et le jeu seul qui l'accomplit et qui développe en une unité sa double nature. De ce point de vue, le jeu serait la fin de la nature humaine. Il n'y a rien au-delà qui soit l'être humain authentique. Mais est-ce certain ? Être ou jouer à être ? Telle est la question. Que l'homme ait des aptitudes à la comédie est une vérité confirmée par le langage. Or, avec le langage, se pose l'inextricable question non pas tant de la véracité que de la sincérité. On peut déceler un mensonge, mais on ne peut s'assurer de la sincérité d'autrui, non plus que de la sienne propre. Jouer la comédie est le contraire d'être sincère. Consultons sur ce point l'œuvre de Marivaux, dont la pensée va bien au-delà du marivaudage, bien qu'elle tourne autour de l'expression de l'amour. Dans Le paysan parvenu, il définit une situation qui ne pose aucun problème. On se sent fort bien et bien à son aise quand c'est par la figure qu'on plaît, car c'est un mérite qu'on n'a pas de peine à soutenir ni à faire durer. On est aimable et aimé sans avoir à parler. Mais tout change dès qu'on doit s'exprimer par des mots. Dans l'heureux stratagème, la comtesse dit à Lisette à propos de Dorante. « Est-ce que je l'aimais ?» Dans le fond, je le distinguais, voilà tout. Et distinguer un homme, ce n'est pas encore l'aimer. Quand on veut être sincère, on évite par prudence les mots qui engagent et on se sert de termes courants et neutres. Sinon, en disant qu'on aime, on risque de parler le langage convenu de l'amour. Dans Les Sincères, la marquise dit à Dorante. « Passion ?» J'ai vu ce mot dans Cyrus ou dans Cléopâtre. Un homme raisonnable qui aime une femme raisonnable ne dit point « Je soupire, ce mot n'est pas assez sérieux pour lui, pas assez vrai. » Certes, le langage de la préciosité relève de la comédie de l'amour. Mais Royce a bien souligné qu'aucun homme n'exprime son amour pour sa bien-aimée dans un langage qui lui soit personnel. Il lui parle avec les mots de tout le monde. Or, dès que les héros de Marivaux se sont posé la question de la sincérité, ils ne peuvent plus en sortir et l'intrigue se complique à un point de subtilité qui a fait dire à Voltaire que Marivaux s'amusait à peser des œufs de mouche dans des balances en toile d'araignée. C'est exact en un sens. Mais ce même Voltaire tombe le plus juste encore quand il parle ici, avec Marmontel et la harpe, de métaphysique. Car effectivement, le mystère de la sincérité se situe au-delà de la psychologie et de la morale. Quoi qu'il en soit, il faut bien au théâtre que la pièce s'achève. Dans le legs, le rideau tombe sur ce dialogue. Le marquis. « Eh bien, madame, je vous aime. Qu'en pensez-vous ? » « Encore une fois, qu'en pensez-vous ? » La comtesse. « Ah, ce que j'en pense. Que je veux bien, monsieur, et encore une fois que je veux bien. Car si je ne m'y prenais pas de cette façon, nous n'en finirions jamais. » C'est ainsi que les hommes se divertissent pour en finir avec l'angoissante question de la sincérité. Mais les penseurs religieux, dans leur vie spirituelle, restent inquiétés par ce mystère qui n'est autre que celui de notre être authentique. Ce que les philosophes appellent notre « moi » et que nous pouvons donner en spectacle aux autres et à nous-mêmes n'est pas notre réalité véritable. Sans doute peut-on chercher à se trouver soi-même en répudiant successivement tous les personnages que l'on a joués. Mais cette voie négative n'aboutit pas à faire découvrir ce que l'on est en vérité. Seuls des mystiques chrétiens, tels que Maître Eckhart et Ruiz Brecq, ont jeté quelques lumières sur ce mystère. Il y a en l'homme, disent-ils, un fond, qu'ils appellent la petite étincelle de l'âme. On peut l'appeler le « je » par opposition au « moi ». C'est à ce niveau du « je » que s'établit la relation ontologique entre le Dieu créateur et l'homme créé. Ce « je » se traduit par ce que Ruiz Brecq appelle la haute mémoire qui assure notre identité à travers toutes les métamorphoses du « moi » et les changements de décor de la vie. Le « moi » est en nous le comédien. Le « je », notre être authentique. Nous renvoyons sur ce point à l'ouvrage magistral de Martin Buber, « Le « je » et le « tu ». Mais afin de montrer l'acuité du mystère et de la sincérité pour un esprit religieux, nous citerons Guillaume de Saint-Thierry. « En me regardant ainsi replié sur moi-même, je suis devenu une pénible et épuisante question sur moi-même. Et pourtant, Seigneur, je suis certain d'avoir par ta grâce le désir de te désirer et l'amour de t'aimer de tout mon cœur et de toute mon âme. Sous ton action, je suis arrivé à ce point de désirer te désirer et d'aimer t'aimer. Mais tout en aimant cela, je ne sais ce que j'aime. Qu'est-ce en effet qu'aimer aimer et désirer désirer ? Nous aimons d'amour si nous aimons quelque chose. Mais peut-être que lorsque j'aime d'amour, je n'aime pas l'amour par lequel j'aime tout ce que je veux aimer et par lequel j'aime tout ce que j'aime. Peut-être est-ce moi aimant que j'aime, alors que c'est dans le Seigneur que mon âme est louable et aimable pour moi. Mais que dirons-nous du désir ? Si je dis « je désire être désirant », je me trouverai déjà en train de désirer. Mais suis-je en train de désirer, te désirer en tant que je ne te possède pas ? Ou bien de désirer, désirer, plus que de désirer te posséder. Tel est le labyrinthe de la sincérité où s'égare sans espoir d'en sortir la conscience de soi, le moi retenu dans les décors du théâtre de la vie privée ou publique, matérielle ou spirituelle. Aussi la plupart des hommes sont distraits par la comédie. Ce ne sont plus des personnes, mais des personnages. Quelles sont alors les relations avec autrui ? Les autres jouent aussi un rôle qui peut nous plaire ou nous déplaire, ce qui fait que nous nous imaginons les aimer ou les haïr. En réalité, c'est leur personnage, leur rôle, leur talent de comédien que nous apprécions diversement. C'est pourquoi ce genre d'amour et de haine est exposé à l'inconstance, car il varie selon l'accord ou la discordance des rôles joués par les uns et les autres. Cette fragilité des sentiments humains désespère les moralistes. Mais la comédie humaine est ainsi faite. Les rôles ne sont pas réglés comme dans l'abbaye de Thélème. C'est pourquoi se pose désespérément la question de la sincérité de l'amour tel qu'il se présente dans le monde. Il est vrai que les spirituels chrétiens ont connu un autre amour, fondé sur la révélation de Saint Jean que Dieu est amour et que l'homme, en vertu d'un commandement nouveau, doit aimer son prochain comme Dieu l'aime. Saint Augustin a fait sur l'évangile de Jean ce commentaire « Les maris aiment leurs femmes et les femmes leurs maris. De même, les enfants et les parents s'aiment les uns les autres, ainsi que les hommes qui sont liés par des intérêts, sans parler des amours coupables et condamnables. Mais cet amour, chrétien, et pour nous un commandement nouveau, en ce qu'il fait de nous des hommes nouveaux. Celui qui aime son prochain saintement et spirituellement, qu'aime-t-il en lui sinon Dieu ? Cet homme nouveau est justement l'être authentique du « je » que le Christ révèle. Mais hélas, même s'il existe, il nous a paru inaccessible à nos propres forces. Une telle conviction suppose d'ailleurs la foi en Dieu et en sa grâce. Or la croyance religieuse peut, elle aussi, être jouée sans qu'on soit pour autant un tartuffe. Elle peut être traditionnelle, familiale, commune aux membres d'une société donnée. Le mieux que puisse, semble-t-il, faire un croyant, c'est de croire qu'il a la foi, car tous les théologiens s'accordent pour dire que la foi n'est pas objet d'expérience. Elle est d'origine surnaturelle. Si elle existe, elle ne saurait s'enraciner que dans le fond de l'âme, dans notre inaccessible « je », non dans notre « moi ». Mais comment nous arracher à ce « moi » qui nous voile à nous-mêmes et à Dieu ? Il faut que toute comédie s'achève, et elle s'achève pour l'homme par la mort. La Métrie, ce célèbre matérialiste, disait qu'alors, la farce est jouée. Ce qui implique un jugement sévère sur la vanité de la vie, si elle est une farce, elle n'a aucun sens. Or, comment savoir si elle en a un ? Et si oui, quel il est ? Les philosophes, tels récemment Alexandre Fandor, se sont penchés sur cette question. Ils n'ont guère trouvé de réponse depuis Kant et Fichte, qu'en se tournant vers la religion et en lui donnant une signification particulière fondée sur les exigences de la communauté des personnes. Mais précisément, une telle communauté, pour être réelle et non imaginaire, peut-elle résulter d'une simple mise en scène théâtrale ? Les uns n'ont en effet quotidiennement de relations qu'à travers des rapports sociaux dans les péripéties et les intrigues de la comédie humaine. La communauté des personnes ne saurait donc se manifester dans la vie ordinaire. Peut-être se laisse-t-elle parfois entrevoir dans la relation entre deux individus comme dans le pardon des offenses. Sans doute un pardon peut-il être soit simulé pour faire étalage de générosité ou de largeur d'esprit, soit apparemment par suite de l'indifférence à l'autre, ainsi que le confesse Jean-Jacques Rousseau. Je m'occupe trop peu de l'offense pour m'occuper beaucoup de l'offenseur. Je pense trop peu à mes ennemis pour avoir le mérite de leur pardonner. Mais que se passe-t-il si le pardon est réel ? Les offenses proviennent du rôle joué par l'offenseur, de son « moi », et touche le moi de l'offensé dans le rôle qu'il joue. L'offensé qui pardonne réellement oublie donc, et son moi offensé, et le moi de l'offenseur qui l'offense. Mais qui, devant le pardon, peut se sentir touché au-delà de la conscience qu'il a de son propre moi ? Le pardon peut alors dévoiler réciproquement l'authenticité de ces deux êtres, de celui qui pardonne et de celui qui est pardonné. Par suite, on comprend qu'il soit capable d'engendrer un amour partagé, le véritable amour. Dans ces conditions, et sans doute en d'autres semblables, comme par exemple dans la fidélité sur laquelle s'est penché Gabriel Marcel, on serait justifié à croire que l'homme est autre chose qu'un comédien, et que c'est cet autre qui est aimé, pardonné, objet de fidélité, encore qu'il soit impossible de savoir qui il est en vérité. Sans doute est-ce en ce sens que Dostoïevski fait dire à Ivan Karamazov « Il faut qu'un homme soit caché pour qu'on puisse l'aimer ». Dès qu'il montre son visage, l'amour disparaît. On ne saurait aimer un masque d'un amour authentique. Mais l'homme parle, et rien n'est plus adapté au théâtre que la parole. Elle est le propre de l'homme et il n'y renonce pas volontiers. On se rappelle comment Rabelais raconte que frère Jean des Entemorts sauva le clos de l'abbaye du sac des ennemis. Les uns escarbouillaient la cervelle, les autres délochaient les spondyles du cou. Les uns mourroient sans parler, les autres parlaient sans mourir. Les uns mourroient en parlant, les autres parlaient en mourant. Voilà le tableau de la vie et de la mort des hommes. Certains meurent en parlant, sans perdre un seul mot de leur rôle, jusqu'à ce que le rideau tombe. Ils meurent en comédiens. Balzac a parfaitement peint une telle mise en scène dans Les Employés, à propos de la mort de Monsieur de la Billardière. Il a voulu recevoir les saints sacrements, mais pour les recevoir, il a mis ses habits de gentilhomme ordinaire de la chambre, tous ses ordres, enfin il s'est fait poudrer. Ce n'est pas tout. Il a dit, car vous savez qu'en mourant, tous les hommes célèbres font un dernier speech, il a dit « Je dois bien me parer pour recevoir le roi du ciel, moi qui me suis tant de fois mis sur mon 41 pour aller chez le roi de la terre. » Voilà comment finit monsieur de la Billardière. Il a pris à tâche de justifier le mot de Pythagore. On ne connaît bien les hommes qu'après leur mort. Entendons par là, une fois qu'ils ont fini de jouer leur rôle. Ce sont là des comédiens endurcis. D'autres parlent en mourant, comme pour marquer le point final de leur existence qu'ils ne remettent pas en question, leur rôle étant achevé. Ce que raconte Rousseau dans les Confessions de la mort de Madame de Versolis illustre bien ce genre de mort. Sa mort fut celle d'un sage. Sur la fin de sa maladie, elle prit une sorte de gaieté trop égale pour être jouée. Elle ne cessa de s'entretenir paisiblement avec tout le monde. Enfin, ne parlant plus et déjà dans les combats de l'agonie, elle fit un gros pet. « Bon, » dit-elle en se retournant, « femme qui pète n'est pas morte. » Ce furent ses derniers mots. Il n'y a plus trace de comédie dans une telle mort, mais il n'y a rien d'autre qu'un accord final sur lequel s'achève la symphonie d'une vie. Quant à ceux qui parlent sans mourir, ce sont les comédiens qui jouent le jeu de leur vie. Mais ceux qui meurent sans parler présentent un cas particulièrement intéressant. À moins que le moribond n'ait sombré dans l'inconscience totale qui n'est qu'une fin anticipée, il est possible qu'en face de la mort, il se dépouille de son personnage et en découvre l'inconsistance et la vanité. Dans une telle situation, l'homme se connaîtrait tel qu'en lui-même, enfin l'éternité le change. Ainsi meurt le frère du tsaré Zosime dans les frères Karamazov. Il mourut 3 semaines après Pâques, ayant toute sa connaissance, et bien qu'il ne parla plus, il demeura lui-même jusqu'à la fin. C'est de cette mort, semble-t-il, que mourut Spinoza un jour de Pâques, seul, sans bruit et sans témoin, pénétré peut-être alors de la vérité de ce qu'il avait écrit « Sentimus expirimurque nos alternos esse ». Nous sentons et éprouvons que nous sommes éternels. Mais que se passe-t-il dans ce silence intérieur qui précède la mort réelle ? Nul vivant ne le sait. Plusieurs philosophes actuels ont bien vu que le propre de l'homme est de se mettre en question. Question inéluctable pour qui ne cherche pas à s'en divertir. Et notons que le divertissement pascalien est un jeu. Mais question angoissante, car quoique pressante, elle est sans réponse. Telle est la situation humaine que Karl Jaspers a appelée « situation limite », « Grenzsituation », semblable à celle des moutons dont parle Dante. Ils sont parqués dans un enclos comme l'homme dans l'enceinte de la vie. « El in pelce non sano », ils n'en savent pas le propter quid. Aussi, en conclusion, je ne saurais faire mieux que de citer un court poème du grand poète japonais Kobayashi Yatarō, 1763-1827, connu sous le nom de Issa, qui a exactement évoqué ce qu'est ici-bas cette situation limite de l'homme. Dans ce monde de rosée, tout est illusion. Mais tout de même...
Ainsi s'achève cette émission spéciale en hommage à Roger Arnaldès, où vous avez entendu les témoignages de Michel Zinc, d'Alain Gimaret et la lecture de ce texte littéraire de Roger Arnaldès éloigné de ses travaux islamologiques, lu par Patrick Hamel. Il s'agissait de cette communication faite en séance publique à l'Académie des sciences morales et politiques en 1997, année où il fut président de cette même académie. Vous pourrez retrouver dans la médiathèque de Canal Académie la suite de cet hommage en téléchargeant l'émission En habit vert consacrée à l'œuvre de Roger Arnaldès avec l'interview de François Desroches et une autre émission à voix lue qui reprend le texte, là encore de Roger Arnaldès, le texte d'une séance publique à l'Académie des sciences morales et politiques intitulée « L'islam, une religion conquérante ?»